Bonjour à tous, chers auditeurs. Moi, c'est William. Bienvenue dans ce 37e épisode de Subculture, une histoire de la musique actuelle. Je vais donc tout au long de cette série retracer l'histoire des genres musicaux populaires que l'on connaît aujourd'hui en accent sur les styles d'origine anglo-saxonne. Autant parler de ce que je connais. Bien sûr, ces genres de musique tirent leur base de sonorité du monde entier. J'en parlerai, mais je ferai peut-être une autre série sur l'histoire des musiques d'autres pays pour pouvoir me focaliser un peu plus sur celle-ci. En attendant, voyons d'où viennent le rock, le rap, la techno ou la house. Comment sont-ils apparus ? Pourquoi, dans quel contexte et comment tous ces styles ont influé sur la scène musicale francophone. C'est ce que nous découvrirons dans cette émission. Je ne vais pas pouvoir parler de tout en détail, mais je sais que vous m'excuserez si je semble oublier certaines choses. Ceci est une synthèse se focalisant sur les genres et styles alternatifs, underground, ce que l'on appelle les sous-cultures, d'où le nom de l'émission. Bien sûr, j'aborderai un peu le mainstream, le commercial, mais ce qui m'intéresse le plus ici, ce sont les rebelles de la musique, qu'ils soient révolutionnaires au sens politique du terme, mais aussi purement musical et technique. Vous avez sûrement deviné avec cette musique d'intro, aujourd'hui, après avoir parlé de soul puis de funk la saison dernière, on va parler de disco. S'est principalement développé à partir de la musique qui était populaire sur la piste de danse des clubs qui ont commencé à passer des disques au lieu d'avoir un groupe en direct. Les premières discothèques diffusent principalement de la musique swing. Plus tard, le rhythm and blues up-tempo est devenu populaire dans les clubs américains et les disques de Northern Soul et de glam rock au Royaume-Uni. Au début des années 40, les boîtes de nuit parisiennes se sont mises à diffuser des disques de jazz pendant l'occupation nazie. Régine Zilberberg prétend avoir lancé la première discothèque et avoir été le premier DJ de club en 1953 au Whisky à Gogo à Paris. Elle a installé une piste de danse avec des lumières colorées et deux platines pour pouvoir passer des disques sans avoir d'interruption dans la musique. En octobre 59, le propriétaire du Scotch Club d'Aix-la-Chapelle en Allemagne de l'Ouest a choisi d'installer un tourne-disque pour la soirée d'ouverture au lieu d'engager un groupe en direct. Les clients n'étaient pas impressionnés jusqu'à ce qu'un jeune journaliste qui couvrait l'ouverture du club prenne impulsivement le contrôle du tourne-disque et présente les disques qu'il avait choisi de jouer. Klaus Kierini a prétendu par la suite avoir été le premier DJ de boîte de nuit au monde. Même si vous le savez bien sûr après avoir écouté mes épisodes sur la culture sound system de Jamaïque, que ce n'est pas totalement vrai, ce ne sont pas techniquement les premiers DJ de soirée. Au cours des années 1960, la danse en discothèque est une tendance européenne reprise avec enthousiasme par la presse américaine. À cette époque, lorsque la culture des discothèques européennes est devenue populaire aux États-Unis, plusieurs genres musicaux au rythme dansant ont gagné en popularité et ont évolué en différents sous-genres. Le rhythm and blues, né dans les années 40, la soul, fin des années 50 et années 60, le funk, milieu des années 60, et le go-go, milieu des années 60 et 70. Plus que le terme disco, le mot go-go désignait à l'origine un club de musique. Ces genres principalement afro-américains influenceront en grande partie les débuts de la musique disco. Toujours dans les années 60, la maison de disques Motown a développé sa propre approche, décrite comme ayant des chansons à la structure simple, avec des mélodies et des changements d'accords sophistiqués. Un rythme de batterie implacable à quatre temps, une utilisation gospel des voix de fond vaguement dérivées du style des Impressions, une utilisation régulière et sophistiquée des cuivres et des cordes, des chanteurs principaux à mi-chemin entre la pop et le gospel, un groupe de musiciens d'accompagnement qui comptait parmi les plus habiles, les plus compétents et les plus brillants de toute la musique populaire. Les bassistes de Motown ont longtemps fait l'envie des bassistes de rock blanc. Et un style de mixage trebly qui s'appuyait fortement sur la limitation électronique et l'égalisation pour donner au produit global un son distinctif particulièrement efficace pour la diffusion sur la radio AM. La Motown a connu de nombreux succès avec les premiers éléments disco par des groupes comme les Supremes, par exemple You Keep Me Hanging On en 66, Stevie Wonder par exemple, Superstition en 1972, The Jackson 5 et Eddie Kendrick Keep on Trucking en 73. À la fin des années 60, les musiciens et le public des communautés noires, italiennes et latino ont adopté plusieurs traits des sous-cultures hippies et psychédéliques. Il s'agit notamment de l'utilisation des salles de musique au son fort et écrasant de la danse libre, de l'éclairage tripant des costumes colorés et de l'utilisation de drogues hallucinogènes. De plus, la positivité perçue, le manque d'ironie et le sérieux des hippies ont influencé la musique proto-disco, comme l'album Love is the Message de MFSB. En partie grâce au succès de Jimi Hendrix, les éléments psychédéliques qui étaient populaires dans la musique rock de la fin des années 60 ont trouvé leur place dans la musique soul et le début du funk et ont formé le sous-genre soul psychédélique. On en trouve des exemples dans la musique des Chambers Brothers, de George Clinton avec son collectif Parliament Funkadelic, de Sly and the Family Stone, et dans les productions de Norman Whitfield avec les Temptations. Les longues introductions instrumentales et l'orchestration détaillée que l'on trouve dans les morceaux de soul psychédélique des Temptations sont également considérés comme de la soul cinématographique. Au début des années 70, Curtis Mayfield et Isaac Hayes ont enregistré des succès avec des chansons soul cinématiques qui étaient en fait composées pour des bandes originales de films. Superfly, 1972, et Theme from Shaft, en 1971. Du milieu des années 60 au début des années 70, la soul de Philadelphie et la soul de New York se sont développées en tant que sous-genre. Avec des percussions somptueuses, des arrangements luxuriants, avec des orchestres à cordes et des processus de production de disques coûteux. Au début des années 70, les productions Philadelphia Soul de Gumbel and Huff ont évolué à partir des arrangements plus simples de la fin des années 60 vers un style comportant des cordes luxuriantes, des lignes de basse frappantes et des rythmes de Charleston glissants. Ces éléments deviendront typiques de la musique disco et se retrouvent dans plusieurs des tubes qu'ils ont produits au début des années 70. Love Train par les OJs avec MFSB comme groupe de soutien en 72, première place du Billboard Hot 100 en mars 73. The Love I Lost par Harold Melvins and the Blues Notes en 73. Now That We Found Love par The OJs en 73 toujours, qui deviendra plus tard un hit pour Third World, le groupe de reggae en 78. TSOP, The Sound of Philadelphia, par MFSB, avec des voix de Three Degrees. Une chanson sans parole, écrite comme thème pour Soul Train, et un succès numéro 1 au Billboard Hot 100 en 74. Le disco est apparu sur les ondes télévisées dans le cadre de l'émission de variété musicale et de danse Soul Train en 71, animée par Don Cornelius, puis de Marty Angelo's Disco Step by Step Television Show en 75, Steve Marcus's Disco Magic Disco 77, Eddie Rivera's Soap Factory et Merv Griffin's Dance Fever, animé par Denny Terrio, à qui l'on doit d'avoir appris à danser à l'acteur John Travolta pour son rôle dans le film Saturday Night Fever, ainsi que Dance, basé à Columbia, en Caroline du Sud. En 1974, la station WPIX-FM de New York a lancé la première émission de radio sur le disco. Dans les années 70, aux États-Unis, la principale contre-culture des années 60, le mouvement hippie est en train de disparaître. La prospérité économique de la décennie précédente avait décliné et les taux de chômage, d'inflation et de criminalité avaient grimpé en flèche. Des problèmes politiques tels que le contre-coup du mouvement des droits civiques, qui a culminé sous la forme d'émeutes raciales, la guerre du Vietnam, l'assassinat de Martin Luther King Jr. et John F. Kennedy, et le scandale du Watergate ont laissé à beaucoup un sentiment de désillusion et de désespoir. Le début des années 70 est marqué par un changement dans la conscience du peuple américain, la montée du mouvement féministe, les politiques identitaires, les gangs ont beaucoup marqué cette époque. La musique disco et la danse disco ont permis d'échapper aux problèmes sociaux et économiques négatifs. Le style de danse sans partenaire de la musique disco a permis à des personnes de toutes les ethnies et de toutes les orientations sexuelles de profiter de l'atmosphère du dance floor. Dans Beautiful Things in Popular Culture, Simon Frith souligne la sociabilité du disco et ses racines dans la contre-culture des années 60. La force motrice de la scène de danse underground new-yorkaise dans laquelle le disco s'est forgé n'était pas simplement la culture ethnique et sexuelle complexe de cette ville, mais aussi une notion des années 60 de communauté, de plaisir et de générosité qui ne peut être décrite que comme hippie. Dit-il. La meilleure musique disco contenait en elle un sentiment remarquablement puissant d'euphorie collective. On prétend souvent que la naissance du disco se trouve dans les soirées de danse privées organisées chez le DJ new-yorkais David Mancuso, connu sous le nom de The Loft, un club underground non commercial sur invitation seulement qui en a inspiré beaucoup d'autres. Il organisait la première grande fête dans sa maison de Manhattan, le jour de la Saint-Valentin, 1970, sous le nom de Love Saves the Day. Après quelques mois, les fêtes sont devenues des événements hebdomadaires et Mancuso a continué à donner des fêtes régulières jusque dans les années 90. Mancuso exigeait que la musique jouée soit soul, rythmée et transmette des mots d'espoir, de rédemption ou de fierté. Lorsque Mancuso organisait ses premières fêtes informelles, la communauté gay, qui constituait une grande partie de la clientèle du Loft, était souvent harcelée dans les bars et clubs de danse gay, et de nombreux hommes gays emportaient avec eux l'argent de la caution dans les bars gays. Mais au Loft et dans de nombreuses autres premières discothèques privées, ils pouvaient danser ensemble sans crainte d'être inquiétés par la police grâce à une politique clandestine, mais légale, de Mancuso. Vince Aletti a décrit l'endroit comme un endroit où l'on va à une fête complètement mélangée racialement et sexuellement, où l'on n'a pas l'impression que quelqu'un est plus important que quelqu'un d'autre. Et Alex Rosner a réitéré cela en disant « Il y avait probablement environ 60% de noirs et 70% de gays. Il y avait un mélange d'orientation sexuelle, un mélange de race, un mélange de groupe économique, un vrai mélange dont le dénominateur commun était la musique. » Le critique de cinéma Roger Ebert a qualifié l'engouement populaire pour les mouvements de danse exubérants du disco d'échappatoire à la dépression générale et à la morosité de l'atmosphère politique et musicale de la fin des années 70. Pauline Kael, écrivant à propos du film sur le thème du disco Saturday Night Fever, a déclaré que le film et le disco lui-même touchaient à quelque chose de profondément romantique, le besoin de bouger, de danser, et le besoin d'être ce que l'on aimerait être. Le nirvana, c'est la danse. Quand la musique s'arrête, on redevient ordinaire.
Thank you.
Au Royaume-Uni, à la fin des années 60, la soul up-tempo avec des rythmes lourds et certains styles de danse et de mode associés ont été repris sur la scène mode britannique et ont formé le mouvement Northern Soul. Né dans des lieux comme le Twisted Wheel de Manchester, il s'est rapidement répandu dans d'autres salles de danse et boîtes de nuit britanniques, comme le château Impney, à Droitwich, les Catacombs, Wolverhampton, les Highland Rooms, Blackpool Mecca, le Golden Torch, Stoke-on-Trent et le Wigan Casino. Lorsque le rythme préféré est devenu plus rapide et plus frénétique au début des années 70, la danse Northern Soul est devenue plus athlétique, ressemblant quelque peu au style de danse ultérieur que sont le disco et le breakdancing. Avec des pirouettes, des flips et des coups de pied de karaté et des backdrops, les styles de danse de club étaient souvent inspirés des performances scéniques des groupes de soul américains en tournée tels que Leo Anthony and the Imperials et Jackie Wilson. En 74, on estimait à 25 000 le nombre de discothèques mobiles et à 40 000 le nombre de disc jockeys professionnels au Royaume-Uni. Les discothèques mobiles étaient des DJ loués qui apportaient leurs propres équipements pour fournir de la musique lors d'événements spéciaux. Les morceaux de glam rock étaient populaires avec, par exemple, le single de Gary Glitter en 1972, Rock'n'Roll Part 2, qui est devenu populaire sur les pistes de danse britanniques alors qu'il n'a pas été beaucoup diffusé à la radio. De 1974 à 1977, la musique disco gagne en popularité et de nombreuses chansons disco se retrouvent en tête des hit parades. Rock the Boat, en 1974 de The Hughes Corporation, single numéro 1 aux États-Unis et vente par millions, est l'une des premières chansons disco à atteindre le numéro 1. La même année est sorti Kung Fu Fighting, interprété par Carl Douglas et produit par B2. Qui a atteint la première place au Royaume-Uni et aux États-Unis et est devenu le single le plus vendu de l'année et l'un des singles les plus vendus de tous les temps avec 11 millions de disques vendus dans le monde, contribuant à populariser le disco dans une large mesure. Un autre succès disco notable de cette année-là a été Rock Your Baby de George McRae. Il est devenu le premier single disco numéro 1 au Royaume-Uni. Dans les sections du nord-ouest du Royaume-Uni, l'explosion de la Northern Soul, qui a commencé à la fin des années 60, a atteint son apogée en 74 et a rendu la région réceptive au disco que les disc jockeys de la région ramenaient de New York. Le passage de certains DJ à des sons plus récents en provenance des États-Unis a entraîné une scission de la scène, certains abandonnant la soul des années 60 pour promouvoir un son soul moderne qui tendait à être plus proche du disco que de la soul. Et c'est ici que l'on va s'arrêter sur le son de Gloria Gaynor, The Queen, dont on parlera dans le prochain épisode. Et oui, c'est déjà fini pour aujourd'hui, malheureusement. Pas comme la fièvre du samedi soir. Subculture, c'est tous les lundis 13h15 et 19h15, le samedi 11h et le dimanche 22h sur Radio FM+, bien sûr. Fréquence 91, tout pile de la bande FM. Ou sur radiofmplus.org via l'onglet Écoutez le direct. Vous pouvez également retrouver tous les épisodes précédents en podcast, en écoute à la demande et téléchargement, toujours sur radiofmplus.org, en cherchant Subculture dans la barre de recherche du site. Et moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, keep it funky!